The Psychotic Monks, formation parisienne de musique indé-rock, a sorti début d'année 2019 l'album Appearance chez le label Virtuous Circle Records. Sélectionné dans le dispositif du Fair 2020, The Psychotic Monks sera en concert au 4 Écluses à Dunkerque le 11 décembre prochain. On revient avec Paul sur la formation du groupe.
Ce groupe, Psychotic Monks, avec le nom, il existe depuis 2012. Après, à 4, ça fait depuis milieu 2015, début 2016 qu'on est ensemble à 4 comme ça. Et le truc, c'est que le groupe s'appelait déjà comme ça avant, mais en vrai, au moment où on s'est rencontrés à 4, on a commencé à jouer sous cette formation-là. On aurait pu changer de nom, on aurait pu changer de tout. Et c'était vraiment un groupe très différent. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on s'est très vite retrouvés. On a eu la chance de travailler avec des gens qui nous ont aidés à monter un peu les premières tournées, là où les gens voulaient bien de nous, les clubs, les petits bars, les Irish pubs, enfin tout ce qu'on pouvait faire, on y allait. On a réussi à monter une tournée de 10 dates un peu, en mars 2016, un truc comme ça. Et ça a été le point de rupture, dans le bon sens du terme, le bouleversement. Depuis, on s'est dit que c'était tellement intense la tournée qu'on recherche ça. On recherche à partir, à bouger, à aller rencontrer des gens, à aller se confronter, faire notre musique dans toutes les conditions. Ça fait partie de notre vie maintenant et on recherche à faire ça le plus possible.
D'ailleurs, les très belles scènes se sont faites très vite, puisque pour parler simplement des deux dernières années, on a pu vous voir au Transmu de Rennes,
ouais.
Cette année au Printemps de Bourges. Vous venez de finir les Eurokéennes de Belfort cette année aussi. Peut-être aussi quelques mots sur, j'ai presque envie de dire, sur la fulgurance de ces très très belles scènes face à un public qui aime, qui continue à aimer le rock.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la première, c'est que nous, on n'a jamais vraiment calculé tout ça. C'est dans le sens où, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait cette expérience de la tournée, des rencontres, de notre rencontre à quatre aussi, parce que c'est très difficile de vivre ensemble. C'est l'expérience de la tournée, quoi. Et une fois qu'on s'est lancé là-dedans, on a rencontré des gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert des voies, qui nous ont ouvert des portes, et nous, on s'est jeté dedans et on n'a jamais eu l'impression de changer quelque chose. En tout cas, il y a eu énormément de belles salles. Nous, on s'est toujours mis beaucoup de pression pour chaque concert. En fait, tout ça pour dire qu'on ne maîtrise pas vraiment tout ce qui s'est passé, l'aspect de la fulgurance, etc. Ce qui est sûr, c'est que les transmusicales, la session KXP qu'on y a tournée aussi, ça a bouleversé beaucoup de choses aussi. Et ça, nous, on est très heureux de pouvoir être sur ces scènes-là, être sur ces plateaux-là, même s'il y a quelque chose qui nous fait un peu peur. Plus on s'enfonce dans le milieu professionnel de la musique, plus on se heurte aussi à quel point, quand tu fais de la musique aujourd'hui en 2019, ça a longtemps été comme ça, mais on est un produit et on est vendu, on est acheté, on est consommé, et tout ça nous fait aussi peur, mais c'est bien de s'y confronter. Tout ça pour dire que ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir rencontrer des gens, c'est de pouvoir faire vivre notre musique. Et c'est génial de pouvoir le faire sur des scènes comme les Eurokéennes, comme les Transmusicales, comme Rock en Seine aussi l'année dernière. Et c'est aussi très important de pouvoir les faire à une dimension humaine, une dimension associative, une dimension moins ancrée dans tout le paysage un peu... professionnel, je ne sais pas comment dire, je pense que tu saisis un petit peu le propos. Mais...
Pour parler peut-être un peu des influences ou des inspirations, est-ce que finalement le fait de savoir qu'on est finalement un produit un petit peu éjectable, ça permet aussi finalement de créer davantage ou en tout cas d'avoir une perception dans la création ?
Il y a, je pense... un travail qu'on essaye de faire pour se distancier des attentes, en tout cas, que ce soit le public ou notre équipe ou le réseau professionnel peut avoir, dans le sens où aujourd'hui, on essaye de définir les choses très rapidement, on essaye de coller des labels, des étiquettes, ça va te plaire, c'est du post-punk, ça va te plaire, c'est du jazz, ça va te plaire, c'est du métal, et c'est quelque chose qui nous effraie beaucoup aussi de se retrouver enfermés, de se retrouver catalogués et de pas pouvoir en sortir. Donc on essaye d'être vigilant par rapport à ça, de toujours être à l'écoute de ce qu'on ressent, de toujours être dans la dans une posture sincère vis-à-vis de la musique qu'on fait, des choses qu'on ressent, et de pas se faire enfermer à dire là, c'est ça, les gens attendent ça de nous, il faut faire ça, parce que sinon, la lancée sur laquelle on est, tout va s'arrêter. Et c'est un travail qui est complexe, parce que quand on tourne énormément, on a moins le temps de composer, on a moins le temps de se confronter à nos envies musicales, parce qu'on découvre tout le temps des groupes de musique, on est tout le temps, on se laisse souvent surprendre et on a souvent envie de changer des choses et on se laisse la possibilité de le faire. Et ça, je pense que c'est très important dans la manière de créer, je sais pas comment dire, de essayer de pas se sentir piégé avec les attentes que ce soit du public ou des réseaux, etc.
et surtout aussi de pouvoir garder cette liberté de pouvoir faire des sons longs, puisqu'en fait, dans cet
Ouais.
album 9 titres, album Private Raining First, les titres sont relativement longs, ou en tout cas laissent place pas mal à l'instrumental. Est-ce que tu peux me parler de comment a évolué finalement le premier album passant au deuxième?
Bah, encore une fois, je pense qu'on n'a rien trop calculé. Le premier album,
Il
on
était
a
beaucoup plus
tout.
brut, hein, beaucoup plus
Ouais.
péchu. Là, on sent une sorte de lenteur, ou en tout cas, peut-être le côté un petit peu moins garage, si je peux dire ça comme ça.
Sur le deuxième album?
Oui.
Ouais, on a découvert beaucoup de choses entre-temps. On a découvert un peu pour certains d'entre nous, on a découvert toute la scène un peu noise expérimentale aussi des années 90.
Quelques noms, peut-être?
Bah, toute la clique de Sonic Youth, il y a Swans, il y a Birthday Party aussi, un peu plus tôt, Père Ubu, c'est un peu plus tôt aussi. Il y a beaucoup de ces influences-là. Il y a aussi des influences un peu plus modernes, un groupe comme Girl Band par exemple. Tout ça se mélange un petit peu. Et avec le premier album, je pense que ce qui persiste un peu et c'est quelque chose peut-être qu'on essaye de faire en live aussi, c'est nous on fantasme beaucoup un aspect cinématographique. On est tous des gros fans de cinéma. On regarde souvent beaucoup de films entre nous. On parle beaucoup d'ambiance de film pour parler de nos morceaux plutôt que de références de musique en soi. Par exemple, il y a un morceau pendant sa composition, on va dire, ce morceau, pour moi, c'est un peu les ailes du désir, ou alors ce morceau, pour moi, je sais pas, c'est tel film, et c'est plutôt une ambiance Lynch, ou c'est plutôt une ambiance Jim Jarmusch, enfin des trucs comme ça, et ça nous aide beaucoup à construire des sets, à construire des histoires qui ont du sens pour nous. Et je pense que ça, il y avait déjà ça beaucoup dans le premier disque, qui a beaucoup une partie très instrumentale. Il y a la moitié des titres qui sont sans voix. Et il y a sur le deuxième album, on a toujours en tout cas eu envie d'avoir la sensation de raconter une histoire sans l'imposer forcément, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse comprendre, interpréter ce qu'il souhaite. Mais par contre, cette envie-là de raconter des histoires, elle est très présente. On n'a pas trop l'envie de faire juste un album où c'est un enchaînement de 15 morceaux qui sont des morceaux qui on raconte quelque chose en soi, mais qui dans la continuité n'ont pas forcément de construction. Enfin, voilà.
On parlait beaucoup de scènes au début de l'interview.
Ouais.
Là, on est plutôt dans l'enregistrement. Vous avez une façon de travailler quand vous aimez vous enfermer, ou bien finalement c'est vraiment en tournée que les compositions se font entre vous?
Bah, il y a plusieurs choses, je pense. La première, c'est que la scène, on a beaucoup, beaucoup plus d'expérience que le studio. Parce qu'au final, le studio, on s'y retrouve un peu catapulté au moment où il faut enregistrer un album. Et après, ça dépend où, mais on peut très vite se retrouver aussi dans des endroits où, bah, on perd totalement les habitudes qu'on peut avoir de se retrouver en face des gens, essayer de sortir quelque chose de soi pour le proposer à des gens qui sont physiquement là, où on peut choper des regards, où il y a un retour humain, etc. Et surtout quand on fait un peu une musique un peu brute, avec beaucoup d'énergie comme ça peut être compliqué de se retrouver tout seul dans un box. Et nous, c'est pas ce qui nous est arrivé, mais en tout cas, c'est quelque chose que je comprends, enfin, c'est très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a eu la chance pendant 5 ans d'avoir un lieu à Saint-Ouen. On a pu tout le temps, le premier album, on l'a enregistré là-bas nous-mêmes. Et on a pu enregistrer, on a pu écouter, faire des tests, faire de l'expérimentation. Et du coup, on a cette approche du studio qui, je pense, nous familiarise un peu plus avec. En tout cas, on a un peu eu la chance d'avoir expérimenté dans le studio. Et ce qui nous met un peu plus à l'aise et en tout cas, nous donne envie d'utiliser le studio, pas juste comme un moyen de capter quelque chose, mais de l'utiliser comme un instrument, comme un outil en fait, de pouvoir se dire en fait il y a des choses qui sont pas possibles en live parce que physiquement on est quatre et qu'on peut pas se faire pousser des bras. Et en studio, il est possible de rajouter, je sais pas, des cloches, de rajouter des trucs improbables qui vont apparaître à une seconde, à un moment dans un morceau et que peut-être personne va entendre, mais enfin. plein de trucs, plein de petits trucs comme ça, de tout le côté post-production aussi, nous, qui nous intéresse beaucoup. C'est des choses qui sont complexes à mélanger. C'est des univers qui sont très différents et qui, en même temps, peuvent s'allier. Le live, le studio, par exemple, on a tout enregistré en live, pour le coup, là, ce deuxième album. C'est-à-dire qu'on, les morceaux, la base des morceaux, c'était tous les quatre. On jouait comme si on était dans une salle de concert, dans un bar, dans un truc. On jouait nos morceaux. Et une fois que la base était faite, une fois que le côté brut était fait, on choisissait si on rajoutait des choses ou pas. Et on utilisait vraiment le studio comme un instrument de ce point de vue-là.
D'ailleurs, c'est ce qu'on entend aussi, notamment sur le titre 8, où au début du morceau, on entend finalement ce jeu des sons avec le studio. C'est un peu indescriptible, mais on sent vraiment aussi qu'il y a ce jeu avec le lieu, finalement. Des petits sons qui arrivent, les commencements, les fins, etc.
C'est un vrai jeu, c'est vraiment ça. Nous, on s'amuse beaucoup à ça parce qu'on est des gros fans d'albums un peu
Comme les Beatles.
d'albums un peu concept, d'albums un peu où on sent qu'il y a une histoire, où on sent qu'il y a aussi du trafic en post-production. On aime aussi beaucoup les albums qui sont très bruts, très puristes, un peu Steve Albini, la production très genre droite, et on capte l'énergie brute d'un groupe. On aime beaucoup ça aussi, mais on est aussi des gros fans d'albums de Radiohead, par exemple. On est des gros fans pour la conception d'albums comme Melody Nelson aussi, où on sent que bah ça a peut-être pas forcément de sens d'écouter un titre au milieu, et que ce qui est génial, c'est de pouvoir se faire un voyage en entier. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui nous poussent à essayer de chercher. Mais après, comme je disais tout à l'heure, nous on a eu la chance d'expérimenter un petit peu, mais on n'a pas fait grand-chose non plus, donc on se retrouve quand même à chaque fois en studio un peu en continuelle découverte. Donc c'est génial en même temps aussi, quoi.
Le premier album était sorti en 2017,
Ouais.
là le deuxième en 2019. Est-ce que vous
Ouais.
êtes déjà dans la conception d'un prochain projet dans cette même veine, même si celui-là vient de sortir? Donc chez Virtuous Circle. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est chez Vicious Circle. On a beaucoup d'idées de suite, de recommencement. On ne sait pas trop encore pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que au moment où on sort un album, on est tous un peu frustrés. Mais je pense que c'est dans le bon côté. On a encore des choses à dire. Je pense que c'est ça qui nous motive. On compose encore des nouvelles choses. On continue à ressentir des choses. On continue à avoir envie de les mettre en paroles, de les mettre en musique. On continue à aimer ça, et je pense qu'il y aura jamais un moment où on aura sorti un disque et on se dira en mode, ah bah ça y est, c'est bon. On a sorti, ça y est, on a tout dit, on a dit ce qu'on avait à dire. Et je pense que c'est ça qui est très très inspirant, c'est ce côté de finir un album et de penser déjà au suivant.
Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton album sur un site internet, j'imagine?
Bah ouais, sur toutes les plateformes habituelles. Toutes les plateformes capitalistes, tout YouTube, tout Bandcamp aussi, je crois. Voilà, tout y est.
Yeah.
mais